J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'une femme qui cherche la vérité. Elle la cherche avec passion, avec obstination. Il faut croire qu'elle est tombée petite dans la marmite. Chaque obstacle arme un peu plus le bras de sa volonté. Les entraves ne sont pour elle que des invitations à insister. Chaque zone d'ombre lui donne envie d'un peu plus de clarté. Car voilà, on ne la lui fait pas. Mais qui est-elle? De quelle nature est donc cette vérité qui est l'objet de sa sagacité? De quelle nature est sa recherche, sa quête? Recherche-t-elle la vérité comme un philosophe le fait, avec un amour du doute et du questionnement au moins égal à la passion du vrai? La recherche-t-elle comme un scientifique le fait, avec l'humilité de reconnaître toujours la sanction du réel, ce moment où l'expérience vient infirmer la théorie, où il faut bien reconnaître que le réel est plus fort que l'idée qu'on s'en fait? La recherche-t-elle comme un historien le fait, conscient qu'on ne sortira jamais complètement des querelles d'interprétation? Ou la recherche-t-elle comme une journaliste le fait, une journaliste qui cherche avant tout à établir des faits, à recueillir des témoignages? Et se pourrait-il que la journaliste soit un peu philosophe, voire un peu scientifique? Les choses, de toute façon, ne sont pas simples. Car même pour le philosophe, même pour le scientifique, il n'est pas toujours aisé de se débarrasser de ses préjugés, des idées qu'on se fait avant même que l'enquête ne commence. Nietzsche l'avait bien vu, quand le philosophe, quand le savant se prétendent au service de la vérité, chevaliers blancs détachés de leurs prénotions, ils ne sont en fait, dit Nietzsche, là que pour militer pour leur vision du monde. Alors le journaliste, comment réussirait-il là où le philosophe et le savant échouent? Peut-être qu'il n'y a pas de chevalier blanc, pas de justicier rédempteur, juste des hommes et des femmes qui font plus ou moins bien leur boulot, qui font plus ou moins bien leur métier d'homme ou de femme. Pour en parler ce matin, de cette vérité qu'on cherche, qu'on trouve parfois, et de la méthode pour la chercher, j'ai la joie de recevoir une des personnalités préférées des Français. Une femme, une journaliste, ancienne présentatrice du 19-20 puis du JT de 13h, qui est devenue aujourd'hui le visage du journalisme d'investigation. Rédactrice en chef de Cache Investigation et d'Envoyé Spécial, aux méthodes efficaces mais parfois objet de débat, Élise Lucet est avec nous ce matin sous le soleil de Platon, et ce n'est pas le pire endroit pour qui s'intéresse à la lumière de la vérité et comporte dans son nom Lucet la double promesse de la lumière et du savoir. Avec elle, Lucet, et oui, avec elle, nous allons nous demander si nous pouvons sortir de l'obscurité et voir enfin les choses en vérité, pas simplement leurs ombres projetées sur les parois de la caverne. Nous allons nous demander si le journaliste d'investigation ne rencontre pas sur son chemin les mêmes obstacles que le philosophe platonicien.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Élise Lucet.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors merci d'être là, d'avoir fait ce détour sous le soleil de Platon. On va faire une émission un peu bizarre.
Ouais.
On va à la fois essayer de comprendre votre travail, comment vous faites ce journalisme d'investigation, et on va le faire résonner par rapport aux autres modalités de la recherche du vrai,
ouais,
qu'elles soient philosophiques ou historiques ou même scientifiques. Comment vous définiriez-vous votre travail?
Une quête, c'est bien. Moi, je trouve que c'est pas mal, effectivement, de se servir de ce mot-là. Et j'ajouterais, en toute modestie, et en collectif. C'est-à-dire que
oui,
dès qu'on fait une quête, en fait, solitaire, il y a effectivement le risque de se perdre, le risque du militantisme. Donc, le collectif protège énormément de ça.
Le risque du préjugé aussi.
Le risque du préjugé,
ouais,
absolument. Et donc, je pense que, franchement, dans nos deux émissions Envoyé Spécial et Cache Investigation,
ouais,
ce qui nous protège le plus de faire des erreurs, c'est de travailler en collectif et de faire cette recherche et cette quête en collectif et de se questionner tout le temps sur est-ce qu'on se trompe, est-ce qu'on s'est trompé de chemin, est-ce qu'on s'est trompé de réponse, et de vérifier entre nous toujours que justement, on n'est pas parti d'un préjugé. C'est le plus important.
Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, je voulais vous demander quelle était votre éthique dans ce journalisme d'investigation. Et ça tombe bien parce que l'éthique, c'est collectif, justement.
Oui.
C'est pas comme la morale où on aurait son propre critère. L'éthique, ça dépend toujours d'une délibération, d'une discussion, en fait.
Alors, ça dépend d'une délibération, d'une discussion, d'une gamberge qu'on a tous entre nous, d'une remise en question permanente. Et puis, ça dépend aussi des lois. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, nous, en tant que journalistes.
Et oui,
il y a des choses qu'on se doit de respecter. Un journaliste ne peut pas être hors la loi. Il n'est pas au-dessus des lois. Donc, il y a des règles assez précises, en fait, dans notre métier. Et on se les applique. et c'est très important, parce que comme la plupart du temps, dans nos émissions, on demande aux personnes qu'on interviewe de respecter la loi, ben on se doit nous-mêmes de la respecter. C'est vraiment un principe de base, j'ai envie de dire, quand on commence à faire une enquête d'investigation.
Alors, on va prendre des exemples concrets pour mieux comprendre votre travail. L'exemple de deux enquêtes, l'une sur les influenceurs à Dubaï, l'autre sur Nestlé. Et justement, soyons plus concrets sur ce qui est interdit. Est-ce que, par exemple, l'usurpation d'identité est autorisée ?
Non. Ça, très franchement, non. On n'est pas dans l'usurpation d'identité.
Jamais ?
Non. On doit dire qu'on est journaliste. D'ailleurs, vous avez qu'à regarder nos enquêtes. Si on ne donne pas notre qualité au départ, et quand je dis qualité, c'est notre profession, si on ne la donne pas très clairement, on peut être effectivement répréhensible et poursuivi. Donc non, on ne cache pas notre profession, notre qualité de journaliste, ouais. C'est hyper important. Après, on peut avoir recours... quand on a tenté d'obtenir du contradictoire par tous les moyens possibles et imaginables, puisque dans une enquête c'est indispensable, on peut aller jusqu'à faire des caméras cachées ou des micros cachés ou ce genre de choses, si on considère que c'est la seule manière et l'unique manière d'obtenir du contradictoire. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il faut vraiment...
C'est subjectif.
Non, c'est pas subjectif, parce que quand vous avez demandé du contradictoire 8 fois par mail, par téléphone, que vous avez tenté par tous les moyens, à la fois par l'attaché de presse, en vous procurant le numéro de téléphone portable de la personne que vous voulez interviewer, et que finalement on vous répond que non, ouais. Mais pas de contradictoire du tout, là effectivement, face à la loi, vous avez le droit, vous, de tenter une dernière fois le contradictoire, parce que quand on est journaliste, c'est indispensable de recueillir les éléments de langage, les opinions des personnes que potentiellement l'enquête peut mettre en cause. C'est vraiment une des règles numéro un, c'est d'obtenir du contradictoire, d'aller chercher systématiquement les deux faces du miroir.
Voilà, alors justement, on prend un exemple de quelqu'un que vous avez cherché pendant 9 mois, donc c'est exactement ce que vous évoquez. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on comprend bien cette notion d'éthique. L'éthique, c'est pas une science exacte. Donc on le comprend bien. Il y a un moment, il y a une décision, c'est une question de tâtonnement, d'intuition. Et là, vous dites, voilà, au bout de 9 mois, on peut utiliser d'autres méthodes. Eh bien justement, écoutons Marc Blattard, que vous avez interrogé à Dubaï.
Interviewé, j'interroge personne, je ne suis pas magistrate.
Mais justement, c'est une question qu'on abordera tout à l'heure, la distinction entre l'enquête policière et le journaliste d'investigation. Mais pour l'instant, on écoute comment vous interrogez.
Interviewé.
Et on écoute comment vous interviewez Marc Blattard.
Il y a un de vos abonnés qui affirme avoir perdu jusqu'à 29 000 euros. Donc ça veut dire que...
Non, ça veut dire que c'est juste quelqu'un qui a les doigts qui brûlent. C'est juste ça, en fait.
Moi, je voulais juste aller au bout de ma question. Ça veut dire que l'argent qui est perdu, ça peut représenter les économies d'une vie pour quelqu'un.
Déjà, je vais vous parler clairement. Déjà, c'est un idiot. T'as 30 000 euros. Déjà, pourquoi tu vas pas mettre un apport dans un appartement ? C'est un idiot.
D'accord.
Oui, c'est un idiot.
Donc là, vous êtes...
Faire 30 000 euros dans du copy trading, c'est un idiot. À la base, pour rentrer dans le copy trading.
Ça veut dire que vous parlez comme ça de vos abonnés, en fait.
Non, je parle pas comme ça de mes abonnés. Je parle.
En l'occurrence, c'est un abonnés.
Si dans mes abonnés, je les choisis pas.
Donc vous avez la promue. Du copy trading.
Bien sûr.
Sur ce copy trading, lui, il a investi, il a perdu 29 000 euros. Et en fait, la seule chose que vous lui dites, c'est qu'il est un idiot.
Non, c'est pas la seule chose. Mais c'est vous qui faites des raccourcis, encore une fois.
Je vous pose la question.
Mais arrêtez de me dire, je vous pose la question. Ça fait 7 fois que vous me la posez, ça fait 7 fois que je réponds, mais la réponse
ne vous
satisfait pas.
C'est ce que vous venez
de
dire. Vous m'avez dit, c'est un idiot.
Je connais le procédé, s'il vous plaît.
Vous m'avez dit, c'est un idiot
parce que personne lui a demandé de mettre 30 000 euros.
Alors, Élise Lucet, il y a beaucoup de choses dans cet extrait. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer le contexte que fait cet influenceur par rapport au copy trading pour qu'on comprenne mieux ? Et après, on va parler de votre méthode.
Alors, nous, on s'est vraiment intéressé à ça, c'est-à-dire des influenceurs qui incitent les gens qui les suivent, leurs abonnés, à faire du copy trading. Et on s'est rendu compte que la plupart du temps, ces influenceurs leur disaient, leur conseillaient de faire du copy trading sur le Forex. Le Forex, c'est en fait un marché d'échange de devises. Donc en gros, vous allez parier sur l'euro, parier sur le dollar ou le yen. Et en fait, 80% des gens qui font du copy trading sur le Forex perdent.
D'accord. Voilà. Copy trading, ça veut dire qu'on parie...
Copy trading, ça veut dire que quand vous êtes un influenceur, vous allez envoyer par une boucle, en fait, à vos abonnés sur Telegram ou sur un autre réseau social, vous allez leur envoyer des ordres à copier.
D'accord,
c'est ça. Donc c'est copy trading.
Éventuellement, sans rien comprendre.
La plupart du temps, sans rien comprendre, parce que pour connaître le marché du forex, faut être sacrément costaud. Et je peux vous dire que même à l'AMF, l'autorité des marchés financiers, quand on leur dit forex, ils disent ah, attendez, c'est un des marchés les plus compliqués, les plus risqués au monde. Oui. Donc quand vous avez des influenceurs qui s'adressent à monsieur et madame tout le monde, ça peut être moi, vous, les gens de votre quartier, et qui leur disent bon bah alors vous copiez un ordre de trading et vous faites juste ça, puis vous allez gagner plein d'argent. En fait, ils oublient juste de dire que 80% des gens qui font ça risquent de perdre toutes leurs économies, ou en tout cas ce qu'ils misent. Donc on part de là, et effectivement ce qui nous a intéressé chez Marc Blatta, c'est qu'il y a 150 personnes qui ont porté plainte contre X, mais son nom est bien cité dans les plaintes. Il y a même une association qui représente les personnes qui disent avoir été escroquées par Marc Blatta, et qui disent, nous on a perdu beaucoup d'argent à cause de lui, parce qu'en fait il nous a dit, mais c'est ultra simple, tu vas gagner beaucoup plus d'argent, ça va être tellement chouette ta vie, tu vas venir vivre à Dubaï avec moi. Bah évidemment, qui n'a pas envie de gagner plus d'argent et qui ne se laisse pas entraîner là-dedans, parce qu'un influenceur a de l'influence.
Et c'est aussi est rémunéré par le trafic.
Alors c'est ce qu'on raconte, c'est voilà. Qu'on montre qu'à chaque fois qu'il recrute un abonné, il est rémunéré, et il est rémunéré parfois, c'est assez hallucinant, parce que quelqu'un qui va miser 500 euros, lui peut être rémunéré 500 ou 800 euros pour un abonnement. Donc pour lui c'est tout bénef, il gagne à chaque fois, mais pour les gens qui misent en fait sur le copy trading, non.
Donc il bénéficie de la relation parasociale.
Mais bien sûr, parce que c'est une relation de confiance qui va s'installer, et cette relation de confiance va lui permettre de dire et de susurrer à l'oreille de ses abonnés à un moment bah écoute, vas-y, investis, tu vas voir, grâce à moi tu vas gagner. En fait la plupart d'entre eux perdent.
Alors au début, pour qu'on comprenne votre
méthode... Et pardonnez-moi, hein, on s'est intéressé à Marc Blatta, mais à beaucoup d'autres, parce qu'il n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ont vraiment tenté de dire à leurs abonnés, allez-y, faites du copy trading, vous allez avoir la super vie, ça va être formidable.
D'ailleurs, on peut retrouver cette enquête sur le site de France Télévisions.
Oui.
Mais juste, au début, vous cherchiez quoi ? Et est-ce que vous aviez trouvé ce que vous cherchiez ?
Alors, et on cherchait, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de gens qui étaient arnaqués, et donc on parle clairement d'escroquerie. Et on s'est dit que notre rôle de télévision de service public, c'était de mettre en garde le grand public par rapport à ça, parce que le pouvoir des influenceurs est de plus en plus important. Oui. Quand ils essaient de vous influencer sur une couleur de cheveux ou de rouge à lèvres, c'est pas si grave que ça, ou des fringues à acheter, c'est pas très grave. Quand ils vous influencent sur toutes vos économies, c'est beaucoup, beaucoup plus grave. Et oui, on a trouvé des choses qu'on n'imaginait pas trouver. C'était toute cette chaîne très organisée de gens qui, pour la plupart, l'influenceur, lui, est visible, mais derrière lui, il y a des gens qui sont le trader, le broker, qui sont vraiment très peu visibles.
Vous avez démonté tout un système.
C'est ça. Et là, pour le coup, c'est Mathieu Robert qui a fait cette enquête et qui a très bien fait le boulot, et qui démonte vraiment point par point toute cette chaîne qui se trouve derrière, avec plein de gens qui gagnent beaucoup d'argent, et au détriment de gens qui misent et qui la plupart du temps perdent.
Au début, comment vous avez les infos avant de décider de l'enquête ? Est-ce que des gens vous envoient des infos ? Est-ce qu'il y a de la délation ? Est-ce que vous faites une enquête préliminaire ? Comment ça commence ?
Ça dépend en fait, il y a plein d'exemples différents. Parfois c'est on va partir de quelque chose qu'on entend, c'est le cas sur les influenceurs où à un moment on s'est dit oh là là, il y a de plus en plus d'escroqueries dans ce milieu-là, donc on va commencer. On prend vraiment le fil de la pelote, si vous voulez, au fur et à mesure, voilà, on déroule la pelote et on trouve de plus en plus de choses, y compris des choses qu'on n'imaginait pas trouver. C'est le principe du journalisme d'investigation.
C'est ça.
Si on commence une enquête en se disant je sais déjà ce que je vais trouver, on a tout faux.
Pour le coup, ça peut être une différence avec l'investigation philosophique, notamment en tout cas la platonicienne, où on a défini un objet et on va après le chercher. On a posé l'essence qu'on cherche, par exemple l'essence du juste, et dans ce cas-là, on ne va pas se laisser porter vers un ailleurs. Mais attention, il y a aussi une autre philosophie qui propose de raisonner comme vous, et de raisonner par sérendipité, par effet de rebond, par effet de surprise.
Oui, oui, mais je pense que c'est hyper important, en tout cas pour nous, de ne pas partir d'un présupposé. Un journaliste d'investigation qui part d'un présupposé, il a tort.
C'est ça.
Parfois, on peut avoir des infos et se dire, on a un point de départ et à l'arrivée, il y a quelqu'un qui nous a donné tel document. Mais le chemin pour aller du point de départ au document final, qui est une preuve, c'est un chemin qui est hyper nécessaire et hyper indispensable à faire. Et si on n'arrive pas à trouver le chemin, c'est pas grave, on n'a pas l'enquête, on n'est pas capable de démontrer. Le plus important, c'est de démontrer.
Alors, je comprends et c'est passionnant et je vous crois, évidemment, mais quand même, il y a un petit souci, c'est que si on est honnête, quand on voit la figure de cet influenceur, j'ai rien contre lui, mais Marc Blatta, on a un a priori. on pense que c'est pas très très net ce qu'il fait. On pense qu'ils s'enrichit sur le dos de gens. En vérité, on a quand même un a priori. Peut-être, il faut reconnaître, c'est ce que dit aussi Nietzsche et c'est ce que disent beaucoup de philosophes, de psychologues, que quelque part c'est un peu illusoire de penser qu'on va se débarrasser. Max Weber, le sociologue, disait on peut pas se débarrasser des prénotions complètement. Il disait on peut pas, on aura toujours un rapport aux valeurs, même si on essaye de pas être dans le jugement de valeurs. Est-ce qu'on pourrait pas nuancer un peu cette idée de se débarrasser de son a priori ?
Oui, mais en fait, si vous voulez, on peut avoir un a priori sur Marc Blatta ou sur les influenceurs qui font du copy trading. En revanche, réussir à faire toute l'enquête qu'a fait Mathieu Robert, qui détricote complètement ce système et qui arrive tranche par tranche à informer les gens qui nous regardent, et moi je participe à cette enquête aussi, et à un moment à confronter Marc Blatta à ça, ça c'est pas du tout ce qu'on avait prévu au début. C'est là où je vous dis que on peut avoir au départ un point de départ et avoir une preuve à la fin. Il y a des gens qui sont escroqués, donc ça on l'a au départ. En revanche, tout le chemin qu'on va emprunter, ça on ne sait absolument pas quel chemin ce sera,
et notamment tout le système qu'on va aussi démasquer.
Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer, du temps et des étoiles tombées, que de temps passé en surface. Du plaisir sans se retourner, ce plaisir ne m'allégeait pas, la beauté n'avait pas de bras, je rêvais d'une vie de plume, ignorais la stèle enclume, je balayais mes propres traces, que de temps perdu en surface, que de temps passé en surface. Que de temps à ne pas succomber aux spleen et aux étoiles plombées. Que de temps passé en surface. L'éphémère était mon credo. Et hier, à la mauvaise place, je n'aimais pas trop mon cerveau. Mon corps envahissait l'espace. Puis j'ai vu bouger la surface. Tout le temps venant à déborder, je pensais n'y pas y penser. Oui, mais nos pensées nous dépassent. Et j'ai glissé sous la surface, délesté de la légèreté. J'ai compté les étoiles tombées et claqué le temps perdu en surface.
C'était Étienne Dao en surface.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Élise Lucet et nous questionnons votre méthode de journalisme d'investigation. On parlera plus tard de vous plus personnellement. Est-ce que, Élise Lucet, toute source est intéressante ?
Toute source doit être explorée. Je pense que c'est très important. Je vous donne un exemple. Ce matin, j'ai reçu un mail d'une dame qui me dit « Rappelez-moi urgent ». Je ne sais pas qui est cette dame. J'ai demandé à un de mes journalistes de rappeler. Parce qu'on ne peut pas laisser passer des pistes d'enquête de gens qui vous appellent un peu au secours. Je ne vous cache pas que la plupart du temps, 8 fois sur 10, ça ne vaut pas. Il n'y a pas de quoi, enfin, franchement. Ouais. Mais je pense que, en tout cas, il faut prêter attention aux gens qui vous interpellent et qui vous demandent à un moment. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « Madame Lucet, vous êtes mon dernier recours ». Bon, il y a 8 personnes sur 10, je ne peux rien pour elles. Mais il y en a 2 sur lesquelles ça peut déboucher sur une enquête, oui.
Donc vous avez les oreilles toujours ouvertes,
vous êtes
toujours
les yeux, les oreilles, oui.
D'ailleurs,
je discute dans la rue, au supermarché, les gens m'interpellent, m'arrêtent. Il faut que je vous parle d'un truc, c'est hyper important. Ma vie est en jeu. Parfois, c'est faux, mais et parfois, je perds du temps. Mais en fait, je le perds pas parce que c'est une sorte de thermomètre dans la société aussi.
Et ça, vous l'acceptez c'est,
bien
parce
sûr.
Que c'est permanent. C'est devenu votre
je
vie
l'accepte
au-delà
moins,
du travail. En fait.
Moi, je l'accepte moins quand je suis avec ma fille parce que elle a le droit d'avoir des moments un peu cool avec moi, mais elle en a un peu marre. Mais sinon, oui, non seulement je l'accepte, mais en plus, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est un journaliste, il se doit vraiment d'être complètement immergé dans la société, de s'arrêter à la pompe à essence, de discuter avec tout le monde, avec les éboueurs qui passent devant la maison, avec les gens à la pompe à essence, au supermarché, partout.
Alors on va prendre un autre exemple, Élise Lucet, d'une de vos enquêtes, l'enquête sur les nitrites dans les jambons Herta.
Bonjour,
ravie, Élise Lucet.
Pour nous accueillir, la directrice de la communication de Nestlé France en personne, Valérie Bignon.
Ah oui, attendez. Ça, c'est tous les produits fabriqués par Nestlé.
Comme dans un musée. Tous les best-sellers de la marque sont en vitrine.
Okay.
Il faudra se contenter de ça.
D'accord.
Parce que filmer les usines Nestlé, même pas en rêve.
Ça, c'est là où il ne faut pas filmer les usines parce que c'est quand même trop moche.
C'est trop moche à voir.
Ah ben, c'est pas beau.
Parce que nous, les usines de jambon, si, ça nous intéresse.
Mais vous les vous emmenez pour les montrer. Oui,
oui.
Mais non.
Et pourquoi donc?
Pourquoi? Parce que la dimension industrielle dégoûte le consommateur.
C'est la réalité. Ah, vous pensez qu'ils pensent que leur jambon acheté sous vide, il est fait dans des petites cuisines?
Si, il est fait pareil. Simplement, il est fait en dimension industrielle.
Ouais.
Donc, pour pas donner à voir les images, parce que c'est pas spécialement.
Ouais, c'est un peu les loups la cuisse, quoi, en fait. Ça fait peur.
Ça fait pas peur. C'est pas sympathique. Ah, oui.
Intéressant cet extrait, elle est assez honnête, cette directrice
oui,
de la com.
Après, je pense que derrière, il lui arrivait des choses pas très sympas.
Elle a trop parlé.
Je pense qu'elle a été remerciée.
Carrément.
Oui, ouais. je crois.
Et surtout que vous avez publié les images.
Et je le regrette pour elle, parce que je pense qu'à un moment, ce qu'elle dit, c'est la réalité. Et c'est très intéressant, parce que nous, si on fait cette sorte de journalisme-là, c'est justement pour aller au-delà des éléments de langage et de la communication bien réglée, bien huilée, des entreprises,
bien
des
sûr.
Politiques, des syndicats, des ONG, de tous ces gens sur lesquels on enquête. Il y a une communication, il y a des choses qu'on dit aux consommateurs, puis d'autres choses qu'on ne doit pas leur dire, qu'on ne doit pas leur montrer. Et en fait, nous, tout le travail qu'on fait, c'est justement pour essayer d'aller au-delà de tout ça. Et cette enquête sur les sels de nitrite dans le jambon, c'était très intéressant parce que je pense vraiment qu'on était les tout premiers à le faire. Ça a provoqué une chute des ventes assez importante, des ventes de jambon, du coup, hein, puisque les sels de nitrite ont clairement été déclarés comme cancérigènes probables dans les charcuteries. Et donc, si vous voulez, là, c'était vraiment, pour le coup, une énorme enquête qu'on a sortie, qui a eu des conséquences ensuite. Et on a vu arriver dans nos rayons, tous, vous le voyez peut-être vous Charles, hein, du jambon sans sel de nitrite
bien
qui
sûr.
Se balade dans nos rayons. Avant notre enquête, il n'y en avait pas du tout.
Je le vois et je m'en réjouis.
Oui, enfin, sauf que il faut être aussi un petit peu méfiant par rapport à ça, parce que le jambon sans sel de nitrite que vous voyez en fait dans vos rayons, il est traité avec une sorte de décoction avec du céleri, et ça provoque en fait exactement les mêmes réactions chimiques, et donc ça peut être cancérigène aussi. Donc achetez du jambon gris, pas du jambon blanc qui est rose, mais achetez le gris. Si vous achetez du jambon gris, a priori il n'y a pas de souci.
C'est un très bon conseil, c'est comme le rosé gris, c'est le meilleur.
Voilà, on est d'accord. En plein été, c'est un très bon conseil.
Alors Élise Lucet, on revient sur votre méthode et votre éthique. Est-ce que la fin justifie les moyens?
Pas toujours. Il faut faire très attention, mesurer, peser le pour et le contre. Non, il y a plein de fois où... si vous voulez, nous, on a vraiment, encore une fois, quand je disais qu'on réfléchit en collectif, je vous donne un exemple. Nous, on s'est toujours refusé à aller interviewer quelqu'un devant son domicile. Ça ne se fait pas.
Vous l'avez souvent fait devant le siège social.
Oui, mais parce que ça, là, pour le coup, on va interroger la fonction. On va interviewer quelqu'un qui représente une fonction. On ne va pas interviewer quelqu'un qui, à un moment, est devant chez lui, avec potentiellement ses enfants, sa famille. Enfin,
ouais.
Non. Bon, alors, donc, la fin ne justifie pas toujours les moyens. Puis, il y a des moments où on se dit, non, là, on n'y va pas. Ce n'est pas pertinent par rapport à ce qu'on veut prouver, si vous voulez. Si ce qu'on veut prouver est tellement important, alors peut-être que ça justifie les moyens. Mais parfois, vraiment, enfin, tout le temps, en fait, on met en balance, avec mes deux rédactrices en chef, ouais. Sophie Legal et Zoé de Bussière, et puis les équipes, on met en balance ce qu'on peut potentiellement découvrir ou démontrer ou avoir comme réaction et ce qu'on va mettre en œuvre.
Alors vous travaillez dans le monde de ce qu'on appelle aujourd'hui la post-vérité. Je vous propose d'écouter le philosophe Michel Serres qui donne un élément plus vaste et plus historique de contextualisation de l'époque dans laquelle on se situe.
Tous les philosophes qui m'ont précédé n'ont fait que s'attaquer à la notion de vérité. Et comme ils n'avaient pas fait de science, aucun d'entre eux, ça leur était facile de relativiser à mort la fonction de vérité. Et donc toute la philosophie s'est orientée vers la fin de la vérité, et ce que vous appelez aujourd'hui cette post-vérité, c'est un peu eux qui s'en sont responsables. C'est-à-dire il y a des vérités mathématiques, il y a des vérités physiques, il y a des vérités scientifiques, etc. Bien sûr, mais eux l'ont oublié. Et aujourd'hui, au fond, dans les médias, on ne demande pas si l'aspirine est efficace. Non, non, on demande combien de gens pensent que l'aspirine est efficace. Mais la question n'est pas, évidemment, combien de gens. La vérité n'a rien à voir avec le nombre des gens qu'elle persuade.
Élise Lucet.
J'adorais Michel Serres, je l'aime encore plus. Michel, je t'embrasse, même s'il est loin aujourd'hui. Et oui, enfin, moi, je dirais post-vérité, vérité alternative. On vit dans ce monde-là aujourd'hui. Et non, moi, je pense que j'ai un peu une formation scientifique au départ, puis ensuite j'ai fait des émissions scientifiques pendant de nombreuses années, et j'aime beaucoup moi cette recherche de vérité justement avec des faits, avec des documents, avec comme n'importe quel journaliste, ici à France Inter ou ailleurs, n'importe où, les journalistes ils cherchent toujours une source, deux sources, trois sources, parce que vous avez besoin de confirmer votre information, et donc voilà, moi je pense qu'à partir du moment où vous avez deux ou trois sources qui vous confirment une information des documents, c'est une vérité. Et la vérité n'exclut pas la nuance. C'est-à-dire que parfois, vous n'avez pas toute la vérité. Il faut encore plus creuser. Et là, c'est le mythe de Sisyphe. Hein. Ouais. On peut à un moment creuser, toujours retomber en bas de la colline et remonter. Mais on n'a pas forcément toute la vérité. Mais en tout cas, la vérité qu'on expose aux téléspectateurs ne peut pas être mise en cause dans la mesure où elle est ultra vérifiée, ultra documentée et établie. Et aujourd'hui, oui, on est dans un monde où il y a des vérités alternatives. J'irais plus loin que Michel Serres, moi, hein, que la post-vérité, qui est très inquiétante. Il y a un slogan pour France Info télé et radio d'ailleurs hein, qui est l'information n'est pas une opinion. Voilà, moi je signe des deux mains pour ce slogan. L'information n'est pas une opinion.
Alors Élise Lucet, on est sous le soleil de Platon qui justement lui cherchait à nous faire sortir de la caverne et à essayer de comprendre ce qui est vrai et ce qui n'est pas la simple pâle copie de la vérité ni l'ombre projetée de la vérité ou de la réalité. Mais ce que dit Michel Serres, je voudrais revenir un peu dessus parce que c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'il origine le problème qu'on est en train de vivre dans la façon dont les philosophes du XXe siècle, notamment les philosophes de la déconstruction, se sont énervé contre la notion de vérité.
Mais c'est à vous de me répondre là. Ouais, c'est vrai ou pas alors ?
Ben oui, c'est partiellement vrai. Mais ce que veut dire Michel Serres, c'est que on est dans une époque où le doute s'est généralisé et où on respecte plus rien. Et à force de désacraliser, de déconstruire, quelque part, on en paye les pots cassés. Et du coup, vous êtes un peu là pour rétablir quelque chose de plus cohérent,
soyons
de
modestes.
Plus établi, voilà.
Ouais, soyons modestes. Hein. On est d'abord, je, encore une fois, je suis pas seule. J'ai mes équipes d'envoyés et de cache investigation avec moi. Ça, c'est la première chose. On n'est pas les seuls à faire de l'investigation et on n'est pas les seuls à vouloir rétablir certaines vérités. Moi, je pense qu'il faut beaucoup de modestie aussi quand on fait ce métier parce qu'on apporte des parts de vérité. Parce que, on n'est pas... Vous aviez utilisé ce mot chevalier blanc tout à l'heure dans l'introduction. Ouais. Et moi, j'ai bien aimé que vous utilisiez ce mot parce qu'on n'est pas des chevaliers blancs. On n'est pas ça. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de cette étiquette. On fait notre part du boulot. Ouais. Voilà. Et on essaie de la faire bien comme des artisans.
Eh bien, je vais vous faire écouter quelqu'un que vous connaissez bien qui lui aussi dit faire sa part.
Je ne peux pas voir ma famille aussi souvent que je l'aimerais. Je ne peux pas voir mes amis, mes collègues, mes camarades. Je ne peux plus faire le travail que j'aimais. Et je ne peux plus voir mon chez moi. Je n'ai pas le sentiment d'avoir perdu. Je ne me sens pas déprimé. Je me sens plein d'énergie et encouragé. Je me réjouis de me réveiller tous les matins parce que, malgré ce que j'ai perdu, j'ai la possibilité de faire ma part. J'ai essayé de changer les choses. D'une façon limitée, je pense que je l'ai fait.
C'est Snowden, donc, qui a fait sa part, comme le colibri, que vous connaissez bien, le colibri de Pierre Rabhi. Je précise pour nos auditeurs que le colibri essaye d'éteindre un incendie avec son bec, il va chercher une petite goutte dans l'océan, et puis il voyage et puis il essaye d'éteindre l'incendie en lui, mais ça sert à rien. Il dit, mais peut-être, mais au moins je fais ma part.
Moi, ce que je trouve très important, c'est que là, on entend aussi la part des lanceurs d'alerte. C'est des gens qui prennent beaucoup plus de risques que nous, journalistes d'investigation. Et c'est hyper important de les saluer. Et je pense que, pour le coup, les deux équipes que je dirige, moi, salue énormément ces gens-là qui, à un moment, sont dans un système, vont remarquer des dérives, vont avoir le courage de copier des documents, de sortir de ce système et de se mettre en danger total. Moi, j'ai beaucoup de lanceurs d'alerte que j'ai rencontrés, Antoine Delcourt, aussi Raphaël Allais ou d'autres, qui ont pris énormément de risques, qui ont vu leur vie bouleversée, qui ont été poursuivis en justice. Enfin, ça a été vraiment un enfer pour eux et qui ont eu ce courage. Donc moi, je tiens à leur tirer mon chapeau parce que par rapport à nous, quand moi, on me croise dans la rue, on me dit « Madame Lucet, vous êtes courageuse », mais attendez, eux à côté, ils sont x10. C'est des supermans ou des superwomen, ces gens-là.
Mais vous, malgré tout, vous ou vos équipes, prenez quand même quelques risques. Vous n'avez pas peur?
Oui, on prend des risques, mais enfin, on prend des risques. Est-ce que vous ne pensez pas que les envoyés spéciaux qui vont en Ukraine, qui vont en Israël, ne prennent pas de risques? Oui. Si j'avais fait ce métier-là, moi, journaliste, pour rester bien tranquille dans un studio au chaud, bah, je n'aurais pas choisi de faire envoyé spécial. J'aurais fait des chiffres et des lettres ou autre chose, et j'ai tout un respect pour des chiffres et des lettres. Mais à partir du moment où on est journaliste d'investigation, oui, on prend des risques, on signe pour ça. Mais pas que moi, mes équipes aussi. Et oui, parfois, c'est un peu risqué. Mais encore une fois, restons très modestes par rapport à ces lanceurs d'alerte.
Give it to me. You gotta let me know what I am doing, where I am going wrong. Stop looking us. Tell me to my face, here for it now. So show me what you made of. 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 You think I care about your opinions? I think they valid. But they can't do me harm. I'll take it on. Your criticism, then dust it off. Yeah, once I feel I'm wrong, so show me what you made of. What you mean? What you mean? Say what you mean to me. What you mean? What you mean? Say what you mean to me. Good thoughts and it shows. By the bits they grow. Jealousy no more. That must have been controlled. Green eyes and they bold. Coming from my goal. Grip, grip, it holds. The certain chest it grows. We drip, drip, yeah, we pouring. The monster been ignoring. We sleeping, yeah, we snoring. It's knocking, it's important. Let the rhythm raise your thumb and see. Yeah, yeah. So show me what you made of. 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 You think I care about your opinions? I think they valid, but they can't do me harm. I'll take it on. Your criticism, then dust it off. Yeah, once I feel I'm wrong, so show me what you made of. What you mean? What you mean? Say what you mean to me. What you mean? What you mean? Say what you mean to me. What you mean? What you mean? Say what you mean to me. What you mean? What you mean? Say what you mean to me.
C'était Green Tipeng, What You Mean.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Élise Lucet, sous le soleil de Platon, et ça tombe bien, car Platon lui aussi recherchait la vérité. On a bien compris votre méthode. Je voudrais revenir un peu sur les attaques que vous avez subies et les mettre en perspective par rapport à tous les procès que vous avez eus, et je crois que vous n'en avez perdu aucun.
Aucun.
En 15 ans, je crois.
12 ans.
Donc ça, c'est voilà. Mais notamment, on vous reproche de l'intrusion, on vous reproche d'être un peu agressif sur les trottoirs en saisissant les gens par surprise.
Alors, de l'intrusion, non. En fait, on n'intervient que dans des lieux publics, ouais. Donc c'est impossible en fait de rentrer à un moment. Vous pouvez arriver à un moment dans une assemblée générale qui est publique, vous pouvez arriver dans une conférence qui est publique, dans des prises de parole où effectivement le public est admis, et donc les journalistes, bien sûr, à ce titre, sont eux aussi admis. Après, oui, il m'arrive de courir après quelqu'un sur un trottoir, c'est pas mon sport favori. Je vous le dis franchement, moi ce que j'adore, c'est avoir une interview en bonne et due forme, où on est posé et argument contre argument, ou plutôt question et entendre les arguments, et nous, en fonction de l'enquête, opposer à ces arguments des faits qu'on a réussi à recueillir et entendre les arguments qui sont opposés à ces faits-là. C'est quand même beaucoup plus gratifiant de faire une bonne interview que de courir après quelqu'un. Moi, j'ai pas fait sport-études, donc c'est pas ce qui m'intéressait dans la vie, mais c'est un moyen de dire à un moment, si vous jouez toujours la politique de la chaise vide, ouais. Et c'est venu au départ d'une autre émission que je faisais qui s'appelait Pièce à conviction, où à un moment on a senti tous les dircoms qui disaient à leur patron, vous savez quoi, on va pas répondre.
Ouais.
Et c'était un moyen de leur dire, la politique de la chaise vide, ça marche plus, en fait. C'est-à-dire que nous, on va vous donner toutes les occasions possibles et imaginables de faire une interview posée, en bonne et due forme, et puis si vous voulez vraiment pas, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois, bah oui, on en viendra peut-être à venir vous chercher dans un endroit public pour essayer d'obtenir des réponses et démontrer aux téléspectateurs qu'on est allé jusqu'au bout pour tenter d'obtenir ces réponses. Alors oui, ça peut susciter des critiques, très franchement, mais moi je suis pas là pour plaire à tout le monde.
Non, je comprends bien. Votre réponse est très claire et très convaincante. Mais néanmoins, au-delà du fait que juridiquement vous êtes dans votre droit, que vous avez la loi pour vous, que vous respectez la loi, on l'a compris et ça a été démontré par 14 ans de procédure. Néanmoins, humainement, subjectivement, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses que vous regrettez? Ou vous dites là, c'était pas très, je sais pas, un peu trop, pas élégant?
Mais vous savez, il y a plein d'endroits, plein de moments où on s'est dit, non, ça c'est pas la peine, on n'y va pas, etc. Quand on y va, quand on décide de tourner ce genre de séquence, c'est vraiment qu'on a tout mis en œuvre avant pour ne pas en arriver là. Donc encore une fois, c'est pas mon sport favori, loin de là, mais si ça démontre qu'on a tout fait pour aller jusqu'au bout, alors non, je ne regrette pas et l'équipe ne le regrette pas. Mais c'est pesé, c'est sous-pesé. Ouais, ouais. On fait pas ça par hasard.
Nous, on a bien compris cette notion d'éthique, de seuil, et puis c'est le kairos des Grecs, c'est le moment. Quand on a tout tenté, bah, c'est le moment de faire autrement. Je voudrais maintenant vous proposer, chère Élise Lucet, un petit voyage dans le passé, en écoutant cela.
C'est la fin de ce journal. Très particulier pour moi, une page se tourne. Après 26 ans de JT à France Télévisions, dont 11 ans aux 13 heures de France 2, plus d'un quart de siècle à sentir battre le cœur du monde au quotidien, c'est un privilège incroyable, mais aussi une grande responsabilité, celle de vous informer au mieux, de décrypter, de vous transmettre l'actualité en tentant de trouver les mots justes et de garder la bonne distance. C'est aussi la mise en valeur du travail de toute une rédaction. Je quitte le journal en douceur pour une nouvelle aventure passionnante, Cache Investigation et les magazines d'info de France 2. Là encore, ce sont des équipes dont on peut être fier. Alors je vais continuer à tout faire pour vous informer avec toujours la même passion et le sens du collectif. Je vous dis pas à demain, même lieu, même heure, mais à bientôt avec la même énergie encore une fois. Merci.
Vous avez, ça vous fait quoi de réentendre ces adieux?
Oh, c'était super parce que c'est un moment que j'ai choisi. La plupart des présentateurs de JT, on leur montre la porte. Oui. Et en fait, moi, un an avant, j'étais allée voir mon patron Thierry Tuilier en lui disant, tu sais Thierry, ça fait 25 ans que je fais des JT, je pense que c'est bon. Pour faire des JT, faut être à 100%. Je suis à 98%. Là, il est temps que je m'en aille. Et il m'avait dit, écoute, s'il te plaît, c'est pas le moment, reste une année de plus. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment anticipé, que moi j'ai choisi. C'était hyper émouvant parce que j'ai adoré faire ça. Et c'était super bien parce que j'en avais marre de faire ça.
Mais vous avez adoré faire ça et en même temps, au début, c'est pas ce que vous vouliez faire.
Non, pas du tout. Ah non, 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 moi je voulais être Joseph Kessel, donc c'était raté, j'ai raté ma carrière en fait. Non, non, je voulais être Joseph Kessel, je voulais être sur le terrain, moi il y a que le terrain qui me plaît, c'est pour ça que je fais Envoyé spécial, qui est vraiment un magazine de reportage qui s'intéresse à la France et au bout du monde. Et où, pour le coup, on est vraiment en proximité avec les gens. Moi, j'adore cette proximité. J'adore ce que je disais un peu, sentir battre le cœur du pays, de l'actualité, être dedans.
Ouais.
On m'a proposé plusieurs fois d'être dans un burlingue, avoir un poste de dirlo, ça m'intéresse pas.
Mais alors du coup, si on revient dans le passé, on imagine que puisque au début vous vouliez être Joseph Kessel, qu'après vous avez quand même fait, je crois, 25 ans de JT, et qu'à la fin, vous l'avez dit vous-même, vous en aviez marre, ça veut peut-être dire qu'il y a eu des années où vous avez un peu rongé votre frein,
non.
et que cela a peut-être participé de l'énergie d'après.
Ah, peut-être. Non, mais oui et non, j'ai pas rangé mon frein. Attendez, quel privilège de présenter un JT tous les jours où... Moi, j'adore le boulot en collectif, donc ça, c'est super. Et puis, sentir battre le cœur de l'actualité, c'est pas fou, hein. C'est hyper excitant. Il y a des moments géniaux à vivre, des moments dramatiques, des moments durs, des très belles interviews. En plus, j'avais la chance d'avoir les 5 dernières minutes de recevoir plein d'artistes. Donc, c'était très, très varié, très divers. Ouais. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Mais c'était un peu contraint au départ, parce que moi, je voulais pas montrer ma trombine à la télé. Ça, je trouvais que c'était très prétentieux.
C'est raté.
Ouais, c'est raté. Et donc, c'était un peu contraint et forcé au début. Puis, j'ai appris à découvrir ce milieu qui était assez fascinant, intéressant. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce métier, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. Chaque jour est un jour différent. On construit des choses sur le long terme et en même temps, on vit... Tac, l'instantanéité d'un moment fort.
Vous avez un souvenir là, qui revient ? Un souvenir
de JT ?
Ouais.
Le 11 septembre. Et Charlie. Charlie, parce que c'était à 3,50 m des bureaux de Cache Investigation et ça a été un moment très difficile.
Élise Lucet, à votre place, il n'y a pas si longtemps, il y avait Florence Aubenas. Mmh. Je vous propose justement de l'écouter parler de cette manière dont elle travaille.
Je pense que c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire c'est sortir de soi, et c'est ça qui me plaît, et c'est ça qui me plaît aussi dans la manière dont je suis journaliste, c'est-à-dire je travaille dans un quotidien, Le Monde, et le quotidien, comme la radio, comme une rédaction en fait en général, sont des univers extrêmement contraignants. Et cette contrainte, elle vous pousse à faire des choses que vous ne feriez pas. La première fois que je suis partie en reportage à l'étranger, je n'aurais jamais pensé partir à l'étranger. Elle vous oblige à ne pas être vous-même. En tout cas, à essayer de sortir de vous, de vous dépasser.
À vous oublier vous-même.
Voilà. Et ça me convient très bien.
Ah, c'était Florence Aubenas au micro de Laure Adler.
Ah, j'adore Florence. Formidable femme, respect absolu, excellente reporter, bref, c'est un modèle. Et en même temps, une amie, on se voit de temps en temps, je suis bluffée par cette femme. Et oui, elle a raison, c'est un métier qui nous oblige, tout court, et c'est un métier qui nous oblige à nous dépasser. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'à un moment, on se dit, mais moi j'ai fait ça, mais jamais j'aurais pensé que... Enfin, si je regarde l'adolescente que j'étais et la jeune adulte que j'étais... effectivement, ce métier m'a mis des coups de pied aux fesses. Et c'est très bien comme ça.
Vous avez toujours été cash ?
Ouais.
Enfant, moi, adolescente ?
Oui, parce qu'il y a une phrase, et c'est rigolo, parce que cette phrase, c'était vraiment la phrase qui... Quand on me disait « c'est comme ça, c'est pas autrement », ça me rendait dingue. Mais dingue ! Je disais « comment ça, c'est comme ça, c'est pas autrement ?» Mais il faut qu'on m'explique. Ouais. Expliquez-moi pourquoi c'est comme ça. Et si c'est comme ça, c'est qu'il doit y avoir une vraie explication. On part du point A, on arrive au point D, mais vous allez tout m'expliquer. Moi, je veux comprendre tout le cheminement. Sinon, vous n'allez pas à me dire c'est comme ça, c'est pas autrement.
Mais c'était à quel âge que le c'est comme ça vous paraissait insupportable ?
Bon, 8 ans.
Ouais, ouais.
8 ans, très jeune.
Vous êtes kantienne, en fait. Vous savez pourquoi ? Kant, il avait écrit dans son traité de pédagogie exactement ça. Il y avait des gens à son époque, donc au 18e, qui disaient, et d'ailleurs Freud plus tard dira la même chose, en fait, les enfants jusqu'à 10-11 ans, ils sont trop angoissés, ils sont trop intranquilles, il faut leur dire c'est comme ça, ça va apaiser leur angoisse. Et Kant, de répondre, qui est pourtant quelqu'un qui aime l'autorité, attention, c'est vrai qu'il faut dire c'est comme ça, mais pendant qu'on dit c'est comme ça et qu'on impose au corps une immobilité, par exemple, il faut développer la raison en justifiant toujours pourquoi c'est comme ça par une argumentation rationnelle.
Ah bah, je suis kantienne à fond les ballons.
Et vous allez voir que c'est encore plus que ça, et il est assez génial, Kant, et il disait même, Kant, hein, au XVIIIe siècle, même avec un enfant de 2 ans, il faut lui dire c'est comme ça, et je vais te dire pourquoi.
Exactement.
Même s'il ne comprend pas les mots, pourquoi ? Parce qu'autrement, ça va devenir un esclave. Il va s'habituer à la tyrannie. Mmh. Alors que même s'il ne comprend pas, il va comprendre que l'autre se justifie, et c'est comme ça qu'on fait des citoyens.
Mais moi, j'ai commencé, je pense, ma fille avait 3 mois.
Oui.
J'ai commencé à lui parler comme ça quand elle avait 3 mois.
À votre fille ?
Ouais.
Celle qui, maintenant, n'est pas tranquille dans la rue parce qu'on vous arrête tout le temps.
Oui, oui, oui. Mais elle n'aime pas que je parle d'elle, donc j'arrête.
Oui, ben on arrête. Alors, j'ai vu que votre nom, que j'avais plaisanté tout à l'heure en disant que c'était à la fois la lumière et le savoir, Lucé, mais c'est surtout qu'en breton, ça veut dire myrtille. Or, la myrtille, vous savez, c'est ce qui soigne les yeux.
Oui, écoutez, formidable, génial. Non, mais moi, c'est vrai qu'on m'avait dit, Lucé, c'est la lumière, ça va les chevilles. Savoir, c'est encore mieux, mais le savoir, c'est une partie du savoir, encore une fois, on calme. Et la myrtille, je suis pour, j'adore.
Une partie du savoir, c'est justement à cela que nous sommes condamnés d'après Jacques Lacan.
Je dis toujours la vérité.
Pas toutes. Parce que toutes la dire, on n'y arrive pas. La dire toutes, c'est impossible matériellement, sans les mots qui y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité touche au réel.
Alors, je vais pas vous demander de commenter Lacan, c'était un peu une plaisanterie, mais juste ce qu'il dit est intéressant quand même, c'est qu'il dit qu'il faut, c'est parce qu'il y a quelque chose qui résiste, qu'on peut pas savoir, que finalement on touche le réel. Je pense que vous, c'est le contraire, au fond. C'est justement ce qui résiste que vous voulez balayer pour rétablir quelque chose de solide.
Oui, mais en fait, on ne veut pas balayer, on veut investiguer. Ouais. Moi, je ne veux balayer personne. À un moment, il y a des gens qui me disent, vous voulez vous faire un tel, vous vous faire... Non, pas du tout. Nous, on veut juste, à un moment, sur un dossier précis, établir une vérité. Si, effectivement, il y a des obstacles, on va essayer de contourner ces obstacles, ou plutôt de comprendre ce qui bloque et pourquoi ça bloque, et donc d'expliquer les choses. Mais oui, nous, en fait, moi, j'aime beaucoup le réel. Et je pense que c'est hyper important dans ce monde-là où on est bouffé par les réseaux sociaux, par des contre-vérités, y compris par des chaînes ou des médias qui vous balancent des contre-vérités, d'essayer de rétablir des faits, les faits.
Vous pensez vraiment que vous êtes au service de l'objectivité tout le temps ?
Non, mais l'objectivité,
est-ce qu'il n'y a pas un peu de militantisme ?
Non. Alors, pardon, mais l'objectivité, personne n'est véritablement objectif. Il y a un moment où moi toute seule, je ne suis pas objective, mais les journalistes avec lesquels je bosse non plus. Le collectif balaye la subjectivité. Moi, je le pense beaucoup. Je le pense beaucoup. Le juridique aussi balaye à un moment. On a une avocate qui s'appelle Virginie Marquet qui nous remet dans les clous régulièrement.
Ça veut dire que parfois, vous pourriez franchir la limite.
Mais et tout le monde peut franchir la limite à un moment. Mais moi, j'ai absolument pas envie de ça. Notre boulot à nous, c'est pas à un moment d'être militant, de donner notre avis, de pousser des causes. Enfin, c'est pas du tout ça. Si j'avais voulu faire ça, je serais dans une ONG. J'aurais changé de métier. Je ferais pas ce boulot-là. Ce serait complètement idiot de vouloir faire ce travail-là au poste auquel je suis. Faut changer de boulot si on veut être militant à un moment. Il y a plein de gens qui sont militants, qui le font très bien, mais qui le font au bon endroit. Moi, je suis pas militante.
Vous pensez qu'on peut pas deviner pour qui vous votez?
N'en déplaise à certains. Non. Et très franchement, il y a plein de gens qui passent leur temps à dire « Oui, elle est LFiste, machin. » J'ai envie de leur dire « Mais si vous saviez...
» Et donc, vous aviez aussi posé une distinction intéressante entre le journalisme et la police, au fond, ou même la justice.
Oui.
Au sens où vous interviewez, vous n'interrogez pas.
Non.
Mais c'est quand même une enquête.
Oui, ça c'est vraiment important pour moi parce que quand vous avez un mise en cause dans une enquête policière ou des magistrats à un moment, parce qu'ils travaillent ensemble, en binôme souvent, il y a une peine au bout. Nous on n'est pas du tout là-dedans, on est dans la volonté d'essayer de faire découvrir à des téléspectateurs une part de vérité sur un dossier. Peut-être pas toute la vérité, pour reprendre ce que disait Lacan, mais une part de vérité. Et on n'est pas en train d'asséner une peine. Enfin, on est juste en train de dire, voilà, vous nous avez dit ça, ou il y a des éléments de langage qui nous disent ça, il y a votre communication interne qui dit ça, la vérité, c'est ça.
D'accord.
Et c'est tout. C'est pas ça. Moi, j'ai pas voulu être militante, sinon je serais dans une ONG. J'ai pas voulu être magistrate, j'ai pas voulu être policier, sinon j'aurais fait ce boulot-là. Après, qu'il y ait des... Point commun, bien sûr, évidemment, on fait des enquêtes, oui, ça c'est sûr.
Élise Lucet, c'est votre visage qui est aussi connu, à la différence de celui de Florence Aubenas, qui disait qu'elle pouvait s'oublier, s'effacer.
Quelle chance.
C'est peut-être aussi une responsabilité. Maintenant, en tout cas, c'est un état de fait. On a compris que c'était pas votre tasse de thé, que vous n'aviez pas ce désir narcissique au début. Mais maintenant, peut-être qu'on peut l'utiliser et en faire une force.
Alors, c'est parfois un poids, je vous le cache pas, parce que moi, j'ai pas fait ce métier-là. Pour ça, c'est parfois un poids parce que je suis devenue une cible, très clairement, et que bon, j'assume les responsabilités qui sont les miennes, et évidemment vis-à-vis de France Télévisions aussi, avec qui on travaille en très bonne intelligence, mais j'en ai un peu marre parfois d'être toujours prise pour cible, même si ça fait partie du jeu. Et très franchement, la notoriété peut être une force, oui, et parfois un handicap, oui. Les deux. C'est-à-dire que, par exemple, si j'essaie de me glisser discrètement dans un endroit, ça va être un peu compliqué. Donc, il m'est arrivé de rentrer dans des assemblées générales avec un bonnet, des choses comme ça, un masque chirurgical. C'est les deux. Mais bon, ça fait partie... c'est les inconvénients et les avantages de ce métier. Je ne l'ai pas fait pour ça au départ, ça m'est un peu tombé dessus. Maintenant, je l'assume et puis voilà. Et si ça peut rendre service à mes équipes, tant mieux.
Mais parfois, j'imagine qu'il y a des gens qui craignent une enquête, alors que ce n'est pas le cas.
Oui, ça c'est arrivé plein de fois. Dans des restaurants où je rentre dans une salle de restaurant un peu chic et les gens me voient rentrer et je vois il y a 6 tables sur 10 qui se taisent immédiatement. Et qui arrêtent leur conversation et qui me regardent d'un air soupçonneux. Donc c'est drôle, des magasins dans lesquels je suis rentrée pour des choses totalement bénignes de la vie quotidienne et où tous les vendeurs se sont planqués en se disant où est la caméra. Oui, c'est arrivé ça.
Élise Lucet, merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin sur le Soleil de Platon. C'était un plaisir de parler avec vous. On a mieux compris aussi votre métier et votre éthique. Alors votre philosophie, j'ai envie de dire cash et kantienne. Cash, Kant. Cash parce que vous avez toujours été comme ça. Visiblement, c'est votre nature et on devine quand même que pendant un certain moment où j'étais, vous avez dû un peu avoir envie de faire autre chose, c'est que ma perception. Et puis qu'ancienne, parce qu'on ne vous la fait pas, on ne vous dit pas c'est comme ça, on ne vous dit pas la limite est là, à part juridiquement, on l'a compris, mais autrement, on ne vous dit pas que c'est comme ça, sans explication, sans justification. Il y a aussi quelque chose de très humaniste dans cette volonté d'établir la vérité, quelque chose qui rappelle aussi ce que Max Weber disait quand il disait qu'il faut essayer d'associer, même si c'est difficile, une éthique de conviction avec une éthique de responsabilité.
Ah. Très bien, je signe.
Merci beaucoup.
Et je salue mes équipes qui sont formidables.
Merci Élise Lucet. Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Audrey Carme et Laura Dumez. À la programmation musicale, Valentine Chedebois. Elle a été réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Guillaume Roux.